masque et la plume. L'actualité littéraire est au sommaire du masque aujourd'hui avec la généalogie romancée d'Anne Berest qui publie Finistère, l'histoire d'un écrivain qui accompagne le pape François jusqu'en Mongolie dans Le fou de Dieu au bout du monde de l'auteur espagnol Javier Cercas. Nous parlerons des forces de la poétesse Laura Vasquez où la preuve que le roman peut accueillir toutes les formes littéraires figure aussi au programme le tout premier livre de Paul Gasnier intitulé La Collision et le roman autobiographique de Cédric Sapin-Defour, paru sous le titre « Où les étoiles tombent ». Pour en débattre, merci d'accueillir Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Jean-Marc Proust du média en ligne Slate, Patricia Martin de France Inter et Philippe Trétiac, journaliste et auteur, dont c'est la première à la tribune aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, voici le masque. Dans le courrier de la semaine, j'ai compilé vos agacements pour nos fautes de langage, c'est transmis, compilé aussi vos remarques concernant une rentrée littéraire largement dominée, trop largement selon vous, par les maires. Via Instagram, Olivier m'écrit Emmanuel Carrère en tête des ventes, Catherine Millet, Yakuta Ali Kavazovic, etc. Il y a plus de maires dans les rayons des libraires que dans les maternités. Stop, post-scriptum. « Au grand jamais » de Yakuta Ali Kavazovic est le meilleur du genre, genre entre guillemets, selon moi. Sur Insta toujours, pardon, sur Instagram, parce que Olivier Debal s'est fait critique incisive contre mon emploi de mots parfois raccourcis, sur Instagram donc, Maria offre la citation suivante, signée Virginie Despentes. Cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille. Or, cette citation est celle que Paul Gasnier a mise en épigraphe de son premier roman, La Collision, ce roman étant une enquête sur la mort de sa mère, et nous en débattrons au cours de l'émission. Pas de papa, pas de maman, au cœur des forces de Laura Vasquez, m'écrit Noémie sur Instagram, toujours. Les forces au programme du masque, c'est pour quand? Eh bien, là aussi, c'est pour aujourd'hui. Enfin, le débat continue concernant La nuit au cœur de Natacha Apana, qui fait le récit de plusieurs féminicides. Simone Bouchard, de Terrassons la Ville-Dieu, écrit « Qu'un homme soit légitime ou non pour critiquer un roman sur les féminicides, ça n'est pas du tout la question. Ce qui compte, c'est d'admirer le style du livre, le travail d'artisan, de recherche pour trouver le mot juste. Enfin, poursuit cette auditrice, je suis d'accord avec l'auditeur qui compare le style de Laurent Mauvignier à celui de Proust. Et d'ailleurs, je vous quitte pour retourner m'y plonger. La maison vide de Laurent Mauvignier et La nuit au cœur de Natacha Apana sont deux des huit romans en lice pour le Goncourt. » On commence avec Finistère d'Anne Berest, 4 ans après le succès de La carte postale, roman qu'elle avait consacré à l'histoire de sa famille maternelle. Anne Berest poursuit l'écriture de sa généalogie en explorant cette fois la branche paternelle et bretonne. Le texte retrace 3 générations d'hommes taiseux, tous engagés dans les causes de leur temps depuis le début du XXe siècle. Alors il est évidemment question de transmission d'une génération à l'autre, mais aussi de ce que l'autrice appelle les bifurcations, c'est-à-dire tout ce qui éloigne un père de son fils ou de sa fille, éloignement qui peut être source de déception. Toute la fin du livre est dédiée au regard de l'autrice sur la fille qu'elle pense avoir été aux yeux de son père, mais ce qui relie ces 3 hommes et cette femme, c'est un amour paternel fait de non-dits. Le roman alterne le récit de l'histoire familiale passée et le temps présent, où Anne Berest apprend que son père est atteint de 2 cancers et où elle s'entretient avec lui pour mener à bien l'écriture du livre. Elisabeth, on commence avec toi.
Très bien. Alors, tu l'as parfaitement résumé.
Bravo. Merci.
Je t'en prie. Faut dire que c'est un roman très ample, hein, qui fait plus de 400 pages, comme l'était La carte postale. Et elle dit que son père était un grand taiseux, que cette lignée d'hommes, c'était pour elle des livres fermés. Et j'ai l'impression que leur silence, elle a cherché à tout prix à les combler, quitte à faire un peu du remplissage. Il me semble que notamment toute la partie sur le grand-père est un tout petit peu artificielle, qu'elle n'a pas grand-chose à en dire. Et sur le père, ce silence qu'elle cherche à combler, elle le fait en délayant à l'excès des anecdotes qui n'ont pas grand intérêt, comme le vol d'une blouse pendant ses ses années d'étudiant, comme des histoires vraiment totalement superficielles. Et ce qui est très dommage, parce que tu l'as dit, c'est une histoire aussi de bifurcation. À la fin, elle s'appesantit davantage sur cette bifurcation qui est à l'origine d'une souffrance pour elle, puisque c'est cet éloignement entre elle et son père, cette distance, ce qu'elle appelle le syndrome de Pierre, qui est une très belle expression. Elle se demande qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elle qui avait une telle admiration pour son père, qui avait une telle fusion, se sont éloignées. Est-ce que c'est parce que lui, qui était un ancien trotskiste, regrette qu'elle ait épousé un banquier, se soit laissé peut-être un petit peu avoir par le miroir aux alouettes de la vie parisienne, etc. Et je trouve qu'elle en dit des choses très belles. Pour moi, ça aurait été vraiment le cœur du roman. Elle a cette phrase, elle dit « À quel moment, sans crier gare, quelque chose dérobe aux pères et aux filles la joie sereine, cette souveraineté délicate d'être simplement ensemble. » Et c'est ça que moi, j'aurais aimé qu'elle l'explore, parce qu'elle le fait. Et c'est là qu'elle a les phrases les plus belles, que son style, tout d'un coup, se déploie. Là où, lorsqu'elle elle se contente, entre guillemets, de raconter la vie de son père, ses années d'études, la rencontre avec sa mère, son amitié avec un homme homosexuel, je trouve que ça reste très factuel, très peu littéraire, et le style est pas vraiment là. Parfois, elle essaye d'alterner entre les récits et puis les dialogues au présent avec son père. C'est un peu une facilité d'écriture, je trouve un peu une facilité presque de scénariste. Scanne Berest est aussi.
Ouais.
Et donc, je trouve dommage, mais c'est peut-être par excès de pudeur, finalement, qu'elle ne se soit pas contentée de vraiment creuser cette relation avec son père, cet éloignement entre eux.
Est-ce que toi, tu as été prise par ce récit, Patricia, qui est aussi le récit d'une lignée d'hommes qui illustrent la méritocratie républicaine?
Absolument, et des résistants pour beaucoup, parce que c'est des sacrés... ils sont sacrément têtus, ces Bretons, et sacrément volontaires. Oui, et j'ai bien aimé justement, moi, toute cette partie. Alors, c'est vrai que c'est assez minimaliste, en plus les chapitres sont très courts, il y a une grande, grande simplicité dans la façon de raconter, mais toute la première partie, donc, moi je trouve ça très touchant, parce qu'elle sait si peu de choses, il y a tant de fantômes dans sa famille, mais elle se veut quand même la gardienne d'une mémoire familiale, mais qui n'est pas que familiale, parce que c'est un peu le portrait aussi d'une France qu'elle brosse, de la Bretagne qui ne se résume pas aux artichauts et aux chaperons, mais aussi à ses débuts de coopérative agricole autour de la pomme de terre, l'arrivée à Paris au mois d'août, fin août 40, du père et du fils qui débarquent. La première chose qui les saisit, c'est l'odeur de Paris, effectivement, la méritocratie. Tout ça, c'est quand même une façon de raconter l'histoire qui est extrêmement incarné.
Si je puis me permettre, parce qu'on aborde la question de la méritocratie, il y a un point quand même qui m'a aussi un tout petit peu dérangé. C'est parfois, justement, pour manifester cette transmission, ce lien entre eux, je trouve qu'elle use de ficelles un peu artificielles, et notamment quand elle-même se fait passer pour presque une transfuge de classe. Elle dit que, comme son grand-père, quand il est arrivé à Paris, a pu avoir un choc en arrivant, je ne sais plus, à Henri IV, oui. Elle-même, en arrivant à Fénelon, en tant que banlieusarde, a pu ressentir aussi une difficulté. Enfin, elle est fille d'un polytechnicien et d'une universitaire. Je trouve ça un peu compliqué. Voilà, c'est une petite réserve que je souhaitais émettre tout de même.
Mais la transgression, c'est qu'elle allait seulement à Fénelon.
Non, mais le couple des parents, parce que moi j'ai toujours rien compris à ce que faisait son père, mais je suis allée regarder aussi un peu sur Wikipédia. Ça a été un grand scientifique.
En 400 pages, t'as pas compris ce que faisait son père?
C'est un truc à voir avec les marées, j'ai rien compris. Mais je vous
assure.
C'est
un objet d'étude.
Mais la mécanique analytique, moi je dois dire que c'est simple comme chouchou breton, mais en fait, ce père est quand même un type assez énigmatique, parce qu'à la fois, il est plein de tendresse et de toute évidence, il aime sa fille, mais il commet des actes d'une cruauté, et sa propre naissance aussi, qui est tout à fait improbable. C'est-à-dire que sa mère apprend en même temps qu'elle est enceinte d'elle et qu'elle est atteinte d'un cancer. Donc on lui dit « Mais madame, il ne faut pas garder l'enfant. »« Ah mais comment ?» dit la mère, « C'est moi qui décide. » Et elle garde l'enfant. Et c'est Anne Berest.
Jean-Marc.
Moi, ce roman me pose un problème géographique. Je suis d'accord avec Elisabeth.
Finistère, c'est clair pourtant. Hein
ben, non, justement, c'est pas si clair. C'est-à-dire que le titre, c'était le Finistère, et j'ai eu l'impression de passer ma vie dans le quartier latin. Il se passe pas grand-chose, finalement, dans le Finistère. L'essentiel va se dérouler dans le quartier latin, le Balzar, la brasserie Lip, etc., la rue des écoles. Elle est chez elle, et c'est ça qu'elle a envie de raconter. Je pense qu'elle n'arrive pas à raconter autre chose que ça, et ses racines finistériennes. Elle dit, je suis du Finistère, etc. On n'y croit pas un seul instant. Je la crois davantage quand elle me dit qu'elle a chaud au Luberon. Là, on est quand même dans quelque chose qui appartient au 5e arrondissement.
Moi, je te trouve vraiment dur de dire, et quand elle dit je suis d'un lieu, et tu dis non, tu n'as pas le droit d'écrire ça, parce que non, je décrète
bien sûr
que tu n'es
pas d'un lieu. Mais j'ai pas fini, j'ai encore quelque chose qui va te réconcilier avec
moi. Oui, mais il va falloir que Philippe Trétiat te donne la parole.
Alors, une fois qu'elle a parlé des soirées pyjama trotskistes de son père, On peut remonter à son grand-père et surtout à son arrière-grand-père, parce que ça, c'est le début du livre et c'est le livre que j'aurais aimé lire parce que c'est la naissance de la coopérative bretonne. Et là, ça aurait pu être les chaperons, le cheval d'orgueil, tout ce que tu veux, mais côté coopératif. En quelques dialogues parfaitement ciselés, elle plante un décor. Monsieur le maire, ces gens qui viennent de Paris pour acheter nos choux et nos patates, est-ce que la balance sera en leur faveur? Monsieur le maire, ils veulent viennent plus acheter dans nos fermes, ils veulent qu'on vienne au village. Qui va payer le fourrage? Et si on vend pas nos patates, forcément on va les brader, donc on va se faire avoir. Et tous les enjeux du syndicat agricole et de la coopérative sont là. C'est son roman que j'aurais voulu lire.
Non, mais... Tu penses que ça donnerait un bon roman?
Un super roman, un roman social, bien sûr, un roman du 19e siècle.
Donc en fait, toi, tu aurais voulu qu'elle fasse un roman à partir du début du livre et Elisabeth aurait souhaité qu'elle fasse un roman avec la fin du livre. Quelle est ta position, Philippe, avec le milieu peut-être?
En fait, c'est très intéressant de parler le dernier parce que
c'est fait pour.
Les problèmes sont posés, je trouve. C'est exactement ça. Moi, le livre, il m'a séduit au départ parce que c'était un peu dans la lignée finalement du grand roman américain que j'aime. C'était un roman territorial. C'est-à-dire qu'on prend une famille et on raconte l'histoire d'un territoire. Et ça, je trouvais ça très bien, vraiment. Et je trouve que justement, ce qu'elle dit sur la Bretagne, c'est un peu sévère. Je trouve qu'il y a quand même des choses sur la Bretagne. C'est vrai, tout ce qui est sur le syndicalisme.
Sévère, juste.
C'est vrai. C'est toujours intéressant. Le problème, c'est que d'abord, il y a une chose que moi, je trouve toujours un peu pénible, c'est quand un auteur donne sa technique. Et en fait, elle dit au début, en gros, elle trouve les cahiers de son grand-père, et elle dit un moment, et une nuit, ces cahiers m'ont appelé. Ça, je trouve ça quand même un peu lourdingue. Mais quand même, c'est pas grave, parce que je trouve que justement, sur tout ce qui est cette filiation de Bretons venant à Paris, elle a une phrase magnifique, elle dit la gare Montparnasse, ça a été pour nous la première génération où, au lieu d'être un point d'arrivée, c'était un point de départ. On retournait en Bretagne en vacances.
Elle a
une concision comme ça dans les phrases.
7 heures de voyage. Bon,
là où je trouve que le livre faiblit, justement, c'est que quand il n'est plus un roman territorial, mais il devient un roman familial. Et là, moi, je suis moins séduit, parce que j'y crois pas vraiment. Je trouve que d'ailleurs, la partie sur le père trotskiste, qui cache à sa famille qu'il a été trotskiste, faut pas rigoler, quoi. Il aurait tué quelqu'un, je le comprends, mais être trotskiste, on pouvait quand même le dire, ça fait quand même un peu gauchiste pour les nuls, quoi.
Mais, de nos jours.
Mais je trouve que quand même, sur les petites anecdotes qui n'auraient servi à pas grand chose, au contraire, je trouve que dans un certain sens, c'est comme un roman presque d'apprentissage. J'ai trouvé ça pas mal, finalement, ça. Donc, en fait, je trouve que c'est quand même un roman qui mérite d'être lu, quoi.
Finistère, oui. D'Anne Berest, est publié chez Albin Michel. On quitte la Bretagne pour le Vatican et la Mongolie avec Le fou de Dieu au bout du monde, nouveau roman de l'auteur espagnol Javier Cercas. À l'occasion d'un salon du livre, Javier Cercas est approché par l'un des communicants du Saint-Siège. Il lui propose d'accompagner le pape François en Mongolie pour qu'il fasse ensuite le récit de ce voyage comme il l'entend. « Je suis un athée incorrigible », répond Cercas. Mais il accepte à une condition, que pendant le voyage, le pape François lui accorde un entretien pour répondre à cette question. Une fois morte, est-ce que ma mère pourra retrouver l'homme qu'elle a aimé toute sa vie, le père de Cercas donc. Faut-il croire à la vie éternelle? Et avec cette question, Javier Cercas va tenir le suspense d'un, ce qu'on peut appeler d'un thriller théologique, entre Rome et Oulan-Bator. Alors il décrit l'avant, le pendant et l'après du voyage. C'est l'occasion de réflexion philosophique sur la foi, l'occasion de passage biographique sur le pape François. Pour ma part, j'ai appris plein de choses. D'entretien avec les communicants qui l'accompagnent, etc. Et il résume son ambition et ce livre comme ceci. Écrire un livre le plus extravagant qui soit, un mélange de chroniques, d'essais, de biographies et d'autobiographies, une expérience joyeuse et complètement dingue. La folie y aurait donc une place. Patricia.
Ce livre m'a littéralement emballée. On est dans un film, on est dans Habemus Papam. Bon, effectivement, c'est exotique, parce qu'on est entre des confessions de voyage, un essai historique, un essai aussi, une confession, tout ça à la fois. Lui, c'est un homme d'un enthousiasme inouï et qui en même temps est horriblement tourmenté parce que tourner le dos à la foi quand il était ado, ça n'a pas été simple et il aurait pu devenir fondamentalement alcoolique ou alors aller, je ne sais pas, à la piscine nager tout le temps.
Comme Elisabeth Philippe. Mais il a préféré écrire.
J'ai aimé cet homme, j'ai aimé sa mère. Elle apparaît un peu quand même et notamment au cours d'une scène où elle n'a plus toute sa tête mais on devine très bien la femme que ça a été très catholique, le couple qu'elle a formé avec, avec son mari. Alors, le Bergoglio, moi, j'ai une passion pour cet homme, de toute façon.
Alors, précisons que le Bergoglio, comme
c'est
tu
le
dis,
pape.
C'est quand même le pape.
C'est le pape, mais Bergoglio, avant de s'appeler, de choisir
aussi,
de s'appeler
sur
François.
Son portable, sur ton portable.
Non, mais moi, j'aurais adoré rencontrer cet homme, d'ailleurs, être dans la cohorte des personnes qui vont le voir, dont j'ai appris Amélie Nothomb, etc. Bon, parce qu'il y a des
affinités. Le voyage de presse coûte 6 500 €. C'est la seule chose que j'ai apprise dans ce livre.
Non, mais... Ah ben non, mais, oh. mais
ceci était une déclaration de Jean-Marc.
Moi, je me trouve plein de points communs, si je peux me permettre.
Avec le pape ?
Avec le pape, déjà géographique. il vient du Piémont. Sa famille émigre en Argentine. Il naît en Argentine. Il vit le péronisme. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses dans lesquelles moi j'ai baigné toute mon enfance. C'est un homme, et c'est ça que j'adore. C'est un homme des confins, qui est un homme énigmatique parce qu'il est à la fois, il est orgueilleux, il est despotique, il peut être absolument odieux. Il est pas dans le rang. Il est cultivé et il pense, et ça pour moi c'est fondamental, que le sens de l'humour, c'est l'expression de l'homme qui ressemble le plus à la grâce divine. Et ça manque tellement. Et il a ce côté de la spiritualité et du discernement des Jésus. C'est un homme formidable.
Je n'arrête plus.
Il en parle très très bien.
Tu peux juste nous redire cette phrase sur l'humour ? Tu peux...
Il dit que le sens de l'humour est l'expression de l'homme qui ressemble le plus à la grâce divine.
Et voilà,
et c'est le parallèle
moment...
avec Cioran.
Non, mais je voulais juste sur cette phrase passer la parole à Jean-Marc Proust.
Moi, je suis content. Il a fait un beau voyage.
Okay. Mais il
je
a
connais strictement
des gens
rien au Vatican et au catholicisme, mais je n'ai rien appris dans ce livre à part le prix du voyage de presse. J'ai trouvé que c'était extrêmement complaisant.
Mais tu t'es intéressé à ce point au pape François?
Ben pas du tout. Enfin, c'est des banalités, tout ce qu'on trouve là-dedans.
D'accord.
C'est des banalités quand même délayées dans 450 pages. Je pense qu'il faut lire les deux dernières. Là, il y a un petit coup de théâtre intéressant. Mais évidemment, il faudrait peut-être en lire une dizaine d'autres avant. Mais c'est vraiment les deux dernières qui font le sel du livre. Je remercie de parler de communicants. Moi, je félicite le service communication du Vatican. C'est tellement lénifiant et complaisant du début à la fin. Les questions qui fâchent ne sont jamais posées. Enfin, il aborde.
Ben si, est-ce que la vie est éternelle, c'est une question.
Si, il les pose quand même. Il pose la question sur la pédophilie. C'est
mais
pas...
non, la pédocriminalité.
Je peux pas dire qu'il y répond. Hein, mais
non, la pédocriminalité. Il aborde le sujet en disant est-ce que c'est la faute du cléricalisme ou est-ce que c'est le célibat. En fait, faut poser la question autrement. La pédocriminalité, c'est pourquoi l'Église, depuis des décennies, accueille des pédocriminels en leur offrant à la fois des victimes et l'impunité.
Je signale
quand
que
tu poses la question
collé,
comme ça, t'as une autre réponse.
C'est collé.
Sur l'Ukraine, il aborde le sujet, mais de manière extrêmement discrète. Bah, ce serait parce qu'il est latino-américain, donc il n'aime pas trop la CIA, les États-Unis. Il faut poser la question autrement. Il parle du calendrier du Vatican.
Mais c'est parce que l'Église américaine, tout comme l'Église espagnole d'ailleurs, c'est des églises de très, très
droite. Non, mais je pense que c'est toi qui aurais dû accompagner le pape.
Le calendrier du Vatican, la prochaine fois j'y vais. Mais il faudra me payer 6 500 €.
On t'aidera un peu.
Le calendrier du Vatican, il le dit à plusieurs reprises, c'est un calendrier qui s'exprime en siècles. Et l'enjeu du Vatican, c'est le rapprochement de l'Église orthodoxe. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un tropisme pro-russe. Et le pape François est comme tous les autres.
Il ne fait pas un traité de géopolitique. Javier Cercas, ce n'est pas le propos de son livre.
Juste, je termine. Il y a deux conversions dans l'histoire de la littérature.
C'est une confession.
Il y a Claudel à Notre-Dame et Cercas dans la 330 du pape.
Et ben moi, la parole est à Philippe Tréflac qui a juste publié un bon.
Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre parce que, d'abord, Javier Cercas est un immense écrivain. Et je suis d'accord avec mon voisin quand même. Moi, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu parce que je trouve que Javier Cercas n'a pas trouvé la bonne distance. C'est-à-dire que, comme il ne veut surtout pas être pris comme un soldat du pape, il ne veut pas se faire manipuler.
Il ne veut pas le blanchir.
Voilà. Et comme en même temps, il ne veut pas apparaître comme un bouffeur de curé, il est dans une position molle, au milieu. Il dit d'ailleurs dans le
modéré,
livre...
Modéré, pas
il,
molle.
Il dit à un moment... C'est la même
très
chose.
Très molle, c'est un peu...
Non, c'est pas la même chose.
C'est pire, peut-être. Et, il dit à un moment que tout livre sur le pape devrait être scandaleux. Son livre ne l'est absolument pas. Evelyn Vaught disait que le propre de l'humour britannique, c'est l'amateurisme. Lui, c'est ce qui lui arrive. Ça aurait pu être drôle. Il n'a pas cette distance de l'humour, justement, dont il fait...
Mais
je ne trouve pas.
C'est pas très drôle.
Et autre chose,
moi,
surtout, autre chose plus grave, je trouve qu'il rate la grâce. Parce qu'on peut ne pas être croyant et trouver dans la théologie une élévation magnifique. Il n'y a pas ça du tout. Et en plus, au fond, j'ai quand même l'impression que la question qu'il pose au pape, elle est quand même un peu nunuche, quoi. L'Église, c'est mieux que ça. Même si moi, je ne suis pas un croyant, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intelligent.
Que la vie éternelle est la réincarnation ?
Mais heureusement qu'il y a cette question, parce que sinon, moi, je ne sais pas si j'aurais tenu 400 pages. Parce qu'à un moment, on se dit, bon, bah, on va peut-être quand même apprendre quelque chose, on va avoir une révélation à la fin. Je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est toi, je crois, qui disais que les dernières pages, il y avait quelque chose chose qui se passait. C'est peut-être le moment où il y a un tout petit état de grâce, quelque chose qui se passe.
Non, mais les dernières pages à partir de quand? Parce qu'effectivement, c'est un pavé.
Les trois dernières, je dirais.
Ah oui, sur 450.
Non, mais ce livre, il y a fondamentalement un problème de forme. Je dirais pas, comme Jean-Marc, que j'ai rien appris, parce que peut-être que je suis vraiment une telle mécréante que je ne connaissais rien au Vatican. Moi, je ne savais pas, par exemple, que les relevés bancaires du Vatican étaient formulés en latin. Ça m'a beaucoup réjoui.
Entre autres.
Je me suis dit que toutes mes années à apprendre mes déclinaisons n'avaient pas servi à rien. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de tiédeur. Il se veut un peu. Il se réfère beaucoup à Chesterton.
Dieu vomit les tièdes.
Il se réfère beaucoup à Chesterton, qui était cet écrivain catholique et connu aussi pour son humour. Mais ses traits d'humour, à lui, sont vraiment très timides et très tièdes. Et à part dire qu'il imaginait le Vatican des prêtres qui se réunissent dans les catacombes à faire des messes noires, bon, c'est un peu idiot et ça n'a pas grand sens. Et finalement, il nous donne à voir quand même une sorte de firme. Ça fonctionne vraiment comme une entreprise très moderne, le Vatican. Bon, ça, c'est assez amusant.
Enfin,
il aurait pu
moderne,
en faire quelque chose.
Ça grenouille sacrément. Hein.
Oui, ça grenouille sacrément, mais on voit qu'il y a ses communicants, il y a ses chaînes de télé, ses chaînes de radio, etc. Après, en fait, il y a vraiment un problème formel avec ce livre. On passe à chaque fois d'une alternance entre la biographie du pape, puis sa propre relation à lui, Javier Cercas, à la fois. Et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un sur son chemin, on a le droit à un dialogue. Il y a des dialogues qui sont intéressants, hein, qui donnent lieu à des méditations théologiques, métaphysiques qui sont pas...
Il y a des dialogues...
Alors, pardonnez-moi, aucun de vous ne l'a fait, ce jeu de mots, mais c'est parfois un peu étouffe chrétien. Il faut quand même bien le dire. Pardon, il fallait que quelqu'un s'y colle, je l'ai fait.
Bravo, c'est bien.
Le fou de Dieu au bout du monde de Javier Cercas est publié chez Actes Sud dans une traduction d'Alexander Grujicic et de Karine Louesdon. J'espère avoir bien prononcé leur nom. Le prochain livre au programme du Masque s'intitule Les Forces et c'est le deuxième roman de Laura Vasquez qui a reçu le Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre il y a 2 ans. La première phrase des Forces est la suivante. Les heures étaient longues dans mon enfance et je ne me suis pas tuée. La suite est un texte à nul autre pareil qui associe tragédie, humour décalé, essais philosophiques, politiques, contes, poèmes en prose. On pourrait parler d'un roman d'apprentissage qui commence dans un monde de mensonges où les êtres sont animés par des forces qui ne sont pas les leurs. Après avoir claqué la porte du foyer familial, la narratrice se retrouve dans un bar lesbien où une vieille pitié obèse lui donne entre autres des leçons d'humilité. Et à partir de là, le roman bascule dans un monde étrange, peut-être fantasmé par la narratrice. Cette narratrice affirme que la littérature ne l'a pas sauvée et pourtant le texte des Forces compte beaucoup de citations de Sophocle à Bouddha en passant par Virginia Woolf. Et le livre lui-même est un objet particulier parce que le texte est très serré en blocs et scandé par des pages noires qui séparent chaque chapitre. Jean-Marc.
Mais c'est plutôt un bon livre.
Attends, on va la refaire. Redis-le.
On peut faire une minute de
c'est
silence
plutôt un
je
bon
pense
livre.
C'est rare. Alors.
Oui, c'est rare, oui.
Attends, je sens la...
C'est plutôt un bon livre.
Mais
moi-même, ça me gêne de le dire. J'ai tellement pas l'habitude.
C'est
presque violent.
En plus, regardez-le, il est tout rouge.
C'est le reflet du micro. Bon, les 100 premières pages sont assez fastidieuses. Elles sont surtout assez gamines, je trouve. C'est-à-dire qu'elles passent beaucoup de temps à nous dire le capitalisme est partout, la société c'est dur, vivre c'est pas facile. Et puis à un moment donné, ça bascule.
Elle le dit mieux que ça, quand même.
Elle le dit mieux que ça. Et c'est une très belle langue. Il y a une belle narration. Enfin, il y a une étrangeté de la langue aussi.
Ah oui.
Qui fait qu'on lit. Et je continue à lire en me disant, bon, le fond est pas très intéressant, mais c'est tellement beau que je poursuis. Et puis à un moment donné, ça bascule. Il y a ce bar lesbien, qui est assez fou, et puis il y a cet immeuble où à chaque étage, la narratrice se retrouve dans une secte, et à chaque fois la secte est encore plus étrange et absurde que la précédente.
Oui, faut en citer quand même quelques-unes.
En citer quelques-unes.
Ah ben, bah,
j'avais prévu de faire ton travail.
Ah.
Repose-toi un instant.
Je peux en dire une.
Vas-y.
Moi j'aime beaucoup la secte de l'absolue non-certitude.
La secte où on se caresse les cheveux.
Forcément.
Je précise à l'image que c'est Jean-Marc Proust n'en a plus un seul.
Il y a la secte Être et Vivre, où les membres de cette secte passent leur journée et leur nuit à conjuguer les verbes Être et Vivre. Moi, j'ai trouvé que cette secte était formidable. Pour une fois, je me suis senti prêt d'adhérer à une secte. Il y a la secte de l'absolue non-certitude dont tu as parlé et qui termine le livre. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle met de l'humour dans son texte, et il n'y a pas seulement la fantaisie de ces sectes, il y a aussi des phrases qui sont très drôles, il y a du comique de situation, elle arrive à nous faire adhérer à son discours. Et c'est ça le changement, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est drôle, on peut se dire que le capitalisme c'est pas bien et que vivre c'est difficile, parce que c'est tellement bien raconté et qu'avec l'ironie on fait passer énormément de choses qu'elle n'arrivait pas à faire passer auparavant. C'est pas un texte univoque, c'est un texte qui n'est pas uniforme. Il y a plein de formes différentes et c'est ça qui fait sa valeur.
Elisabeth.
Ce texte, tu as cité la première phrase du livre. Pour moi, elle est pratiquement aussi forte que la première phrase de Mars, de Fritz Zorn. Je suis jeune, riche et cultivé, je suis malheureux, névrosé et seul. Enfin, pour moi, on est à ce niveau-là. Et ce récit, ce livre vraiment, elle prend une des formes les plus anciennes, les plus classiques de la littérature, le récit d'apprentissage, le récit initiatique. Elle en fait quelque chose d'extrêmement contemporain parce que justement, sa narratrice, certes, elle déplore le capitalisme, mais elle déplore aussi l'usage de la langue, le fait que les gens ne parlent plus qu'avec des phrases mortes. Et elle, justement,
des leur mots prêt à l'emploi, comme exactement. Elle dit, comme cette expression « prends soin de toi ».
Et elle, au contraire, elle va pétrir, malaxer les mots et puis malaxer aussi les profondeurs de notre société, puisque sa narratrice va dans les marges. Il y a effectivement cet immeuble avec les sectes, mais il y a aussi ce temps qu'elle passe auprès des agonisants, des drogués. Et puis, on est parfois aussi un peu chez Lewis Carroll, un peu dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. Quand elle se retrouve dans ce bar lesbien avec cette vieille lesbienne pitié affalée sur son canapé, on a l'impression de voir la chenille bleue d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a quelque chose comme ça d'assez réjouissant. Elle a une force des images, Laura Vasquez. C'est une poète. Et donc, elle sait installer des images. Moi, je peux vous dire qu'il y a des livres d'elle que j'ai lus il y a 4-5 ans. Les images me restent encore, me hantent. Elle sait vraiment vous hanter avec les images qu'elle fait surgir. C'est magnifique. Ça nous emmène vraiment dans des contrées, dans des confins inexplorés, je trouve, que la littérature n'avait pas encore ouvert.
Moi, pour ma part, je n'avais jamais lu un texte comme ça.
Oui, oui.
Et le geste que je fais, c'est celui de ma main tendue vers Philippe Tritiak.
Oui, oui, mais c'est un très beau geste, mais... Et je t'en remercie. Non, évidemment.
Tu peux aussi faire un peu court. On est vraiment
dans la littérature, quoi. Je trouve que c'est un très très beau livre. Oui, ça nous change, mais c'est vrai, absolument. En fait, moi, ça m'a fait penser au fractal. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'elle s'approche d'un visage. Elle rentre de plus en plus dedans, dans les rides, on rentre dans le corps. Il y a des viscères, il y a du sang, il y a tout ça. C'est une force énorme, quoi. Moi, j'ai des images qui me restent quand même. Il y en a des extraordinaires. Elle dit rire et sourire dans le mensonge. C'est comme s'approcher d'un bébé qui vient naître et de lui crier « meurs ». C'est d'une incroyable violence. Ouais. C'est une poétesse, on sent qu'elle est, c'est les mots qui l'entraînent. Mmh. Et donc les images aussi. Et on est sans arrêt surpris par des images. Non, c'est un très grand livre.
Patricia ?
C'est très marrant ce que tu viens de dire, Philippe, parce qu'on a l'impression, enfin moi j'ai eu cette impression-là à plusieurs reprises, qu'elle réinvente des mots. Mmh. C'est comme si tout à coup, elle nous permettait de les redécouvrir. Mais sans aucune prétention, d'ailleurs en se servant aussi des mots des autres. Alors, c'est pas toujours les plus comiques, mais elle les glisse dans son texte. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Il y a Thomas Bernhard, il y a Kierkegaard, Nietzsche, Lautréamont, mais c'est fait d'une façon mais tellement naturelle et tellement beau. Moi, je trouve que c'est aussi sombre que somptueux. Elle a une pensée qui paraît déraisonnable, mais qui est raisonnée. Et la question qu'elle pose, au fond, c'est comment vivre sans répéter, sans imiter, sans refaire. Et elle a cette phrase, vous en avez cité plusieurs, mais sur sa mère, qui moi me ravit. « La bouche de ma mère était un appareil à refléter le monde. Son absence de pensée personnelle donnait à la réalité d'une dimension quasi métaphysique. » C'est magnifique, non ?
C'est donc les forces... font donc l'unanimité de la Tribune du Masque, les forces de Laura Vasquez, apparues aux éditions du Sous-Sol. On enchaîne avec le nouveau roman de Cédric Sapin de Four, qui connut un très grand succès il y a 2 ans avec son Odeur après la pluie, dédié à son chien Ubac. Ce roman-ci s'intitule Où les étoiles tombent et il est à nouveau d'inspiration autobiographique. C'est d'abord une histoire d'amour entre le narrateur et sa femme Mathilde. L'un et l'autre aiment la montagne et font le choix d'une vie où ils parcourent l'Europe en camion, pour pratiquer le parapente. Un matin de l'été 2022, tandis qu'il s'élançait depuis le sommet du Haut Adige dans le Tyrol italien, Mathilde s'écrase au sol. Cédric Sapin du Four tient le journal du bonheur d'avant et surtout le journal de la reconstruction d'après l'accident. Quant au récit du jour J, il revient régulièrement et de plus en plus précisément au fil du texte. Les chapitres s'intitulent d'ailleurs J-28, J+45, jour J, etc. Et alors H, Elisabeth, tu vas nous donner ton point de vue sur Où les étoiles tombent de Cédric Sapin de four.
Alors, je ne sais pas où les étoiles tombent, mais en tout cas, elles ont dû ricocher sur mon cœur de pierre. Évidemment, non, mais là, je vais vraiment paraître totalement insensible. Voilà, Rebecca a dit de quoi il s'agissait, donc c'est évidemment tragique. On ne peut qu'éprouver de la compassion. Sauf que l'écriture de Cédric Sapin de Four est tellement chantournée, tellement alambiquée, inutilement sophistiquée, que ça fait totalement écran pour moi à l'émotion. Il y a quelque chose, ça m'avait déjà dérangé quand il parlait de son chien, mais là, c'est quand même plus gênant parce qu'il parle de sa femme. Et
Excellent.
Son odeur après la pluie.
Et non, c'est...
Qu'est-ce qu'il
Jean-Marc
est...
Pardon.
Non, mais je trouve ça, je trouve qu'il y a des choses vraiment très, très contestables, en tout cas. Il s'appesantit, par exemple, sur les draps souillés de son épouse. Enfin, je suis désolée, mais je trouve pas ça élégant du tout. Donc, d'un côté, on se pique de faire belles phrases, on se regarde écrire, et de l'autre, on insiste sur ces détails un peu sordides. À côté de ça, ces grandes phrases qui, effectivement, sont parfois bancales, côtoient des choses totalement d'une banalité vraiment saisissante, comme « j'ai mangé la moitié du taboulé bio », bon, bah, effectivement. Ou alors, des images qui, là, pour le coup, on parlait de Laura Vasquez, mais on est très loin de Laura Vasquez, par exemple. Tu as eu une vie riche, accumulant les souvenirs comme les pastilles pour le cœur. Je ne comprends pas cette phrase. Je ne la comprends pas. Je ne suis pas convaincue non plus par la forme, ces allers-retours entre le jour de l'accident et les jours qui ont suivi l'accident. Et surtout, je pense que c'est ce qui m'a le plus dérangée, c'est que c'est lui d'abord, tout le temps. Tout le temps. Sa femme est très peu présente. Il écrit à un moment, je ne veux pas écrire parce qu'écrire serait te figer alors que tu n'étais que mouvement. Mais il la fige et surtout, il
elle
la rend invisible.
Elle est dans un lit d'hôpital.
Elle est figée dans une forme
bouger.
D'invisibilité parce que c'est sa souffrance à lui d'abord. Et je trouve ça un peu dérangeant.
Philippe.
Écoutez, moi, je me souviens qu'il y a longtemps, à la sortie du masque, Michel Crépu, qui était un des critiques, je lui avais dit, vous avez été vraiment très, très bon. Et il m'avait dit, écoute, on a été bon parce que les livres étaient bons. Voilà, je vais être très mauvais. Parce que franchement, je trouve que c'est terrible, mais je trouve qu'on perd du temps, quoi. Non seulement, c'est vrai que le livre, pour moi, il est absolument nul, mal écrit, c'est bourré de fautes, ce qui est quand même dingue. D'ailleurs, on peut même se demander ce que font les éditeurs, quand même, désolé, mais il y a même, sur la quatrième de couverture, une phrase complètement bancale, il est écrit « Un couple affranchi de toute contrainte s'envole l'un après l'autre ».
Il y en a plein comme ça.
C'est la quatrième de couverture. Non, c'est très très mal écrit, donc moi je passe mon tour. Quoi.
Alors c'est le tour de Patricia ?
Ben, je te remercie. Donc effectivement,
non, c'est vrai.
Ça n'est pas le livre le mieux écrit du monde. Je vais faire le bon pied. Il y a effectivement tout un tas de maladresses. Mais il y a quand même là-dedans, c'est vrai qu'il ne parle que de lui, parce que, mais encore une fois, elle est inerte, elle est dans un lit, et c'est sa vie à lui. Alors la moitié du taboulé qu'il mange à un moment donné...
Okay. Tu veux nous donner des détails là-dessus ?
Non, mais ce qui se passe, c'est que je trouve
qu'il
décrit avec beaucoup de justesse et de précision l'état dans lequel on se trouve après justement ce basculement de vie. C'est-à-dire quand on a un être qui est dans le coma ou immobilisé, enfin bref, bon. On est dans un monde à part. Et quand on entre dans ce monde-là, on est confronté à une impuissance et en même temps à une volonté. On guette le regard d'un médecin, on va interpréter une phrase prononcée par une infirmière, on observe les autres accompagnants et l'état dans lequel ils sont et comment sont les malades qu'ils vont voir.
Donc toi, tu as été touché par la justesse
de ce récit-là. On devient finalement le co-capitaine d'un bateau sans avoir du tout décidé de le faire et sans y avoir été préparé. Et à quel moment est-ce qu'on sait si ça vaut le coup qu'une vie soit vécue ? Je trouve qu'il y a quand même là-dessus des choses qui sont bien senties et de la solitude aussi que l'on ressent quand on est face...
Quand on lit.
Non, quand on est dans cette situation-là et de ce à quoi on se raccroche, effectivement, le taboulé, le café du matin, toujours au même endroit, etc. Ce à quoi on se raccroche quand on est dans le monde extérieur.
Jean-Marc.
Mais vraiment, vous êtes...
Non, mais c'est une catastrophe, ce livre. C'est vraiment une catastrophe.
Non,
j'ai beaucoup de compassion pour ce qu'ils ont vécu. C'est une véritable tragédie. Mais ce qu'il en fait, une tragédie littéraire. C'est vraiment... Il n'y a rien dans ce livre à récupérer. C'est-à-dire que c'est une débauche de platitudes. Il écrit des phrases, on a l'impression que c'est des trucs à la va-vite avec des couchers de soleil sur Facebook pour récupérer du like. C'est monstrueux. Les adages grotesques de développement personnel. Qui, hormis demain, sait qu'il n'y aura pas d'autrefois. C'est ça, du début à la fin. Les 100 premières pages, je croyais que c'était un roman pastiche. Puis après, j'ai vérifié et je me suis dit, non, en fait, c'est son histoire à lui. Et donc, c'était difficile de rire. Mais c'était vraiment, à chaque fois, je me disais, il en met un par page et c'est merveilleux. Et le pire, c'est que ses platitudes sont totalement interchangeables. À un moment, il nous dit, la beauté, c'est comme les chanterelles dans un sous-bois. Quand on commence à la voir, on ne voit plus que ça. Mais ça marche avec le bonheur d'être deux, c'est comme les chanterelles, le bonheur d'être deux. L'énergie de la tendresse, c'est comme les chanterelles.
Tu nous en as pas la apporté aujourd'hui, dimanche. Parce qu'en général, tu arrives toujours avec un panier de provisions. Tu pourrais nous apporter des chanterelles.
Alors, je peux vous dire que les chanterelles.
Dans la margarine.
Les chanterelles, on les voit pas si facilement.
Mais François-Régis Gaudry, c'est le dimanche à 11h. On n'y est pas tout de suite.
Bon, enfin. La tragédie de ce truc, c'est qu'au bout d'un moment, on est désarmé par sa naïveté. Parce que écrire comme ça, il y a quand même une forme de naïveté de se livrer tel quel. Et j'imagine qu'il est sincère dans ce qu'il écrit, oui, c'est ça qui me peine le plus.
Où les étoiles tombent, de Cédric Sapin Dufour, est publié chez Stock. On termine avec un premier roman en lice pour le prix Goncourt. Je veux parler de La Collision, signé Paul Gasnier. Le 6 juin 2012, la mère de Paul Gasnier se rend au centre de yoga qu'elle vient d'ouvrir dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Dans la rue où elle roule à vélo, Saïd, 18 ans, fait du rodéo urbain en conduisant une moto lancée à 80 km/h. Le jeune homme perd le contrôle du bolide et percute la mère de Paul Gasnier. Elle meurt des suites de ses blessures une semaine plus tard. Le narrateur tente alors de comprendre comment et pourquoi, je cite, « ces deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés ». Et le livre prend la forme d'une enquête sociologique, historique, intime. Enquête qui le conduit par exemple à rencontrer l'avocat de Saïd, puis ses proches. À partir d'un deuil intime, le roman raconte, je cite à nouveau, un morceau de l'histoire récente du pays et des fractures qui le travaillent. C'est donc à la fois une enquête, je l'ai dit, mais aussi un livre de deuil et une réflexion politique sur fond de montée de l'extrême droite. Philippe ?
C'est-à-dire que au départ, sur la démarche éthique de l'auteur, on ne peut que le féliciter. Quoi. On comprend bien, il a un drame familial et sa crainte, il ne veut pas que ça devienne un fait divers qui serait manipulé par l'extrême droite, pour dire les choses simplement.
Que ce soit instrumentalisé.
De ce côté-là, tout ça, c'est très très louable. Disons que ça, c'est l'aspect éthique du livre. Moi, le problème de ce livre, qui est bien écrit, c'est que je trouve que, à force de retenue, finalement, il perd quelque chose. Quoi. Il y a trop de raisons contre la passion. Et je trouve que sa grandeur éthique, ça en fait sa petitesse littéraire. C'est ça qui est dommage. Par exemple, il s'interdit des quantités de choses qui pourraient être romanesques. Par exemple, le fait que le gars qui est responsable de la mort de sa mère, il vient d'une cité qui s'appelle Les Voraces. Oui. Il est dans une rue qui s'appelle Les Pentes. Tout ça, ça pourrait faire du roman, justement. En tout cas, ça pourrait laisser exprimer sa rage, quoi. Or, il la contient tellement qu'on a comme une espèce d'exercice de bon élève. C'est un livre très propre, mais il est trop propre. Il est très bon, parce que c'est un bon journaliste aussi, donc il est très bon quand il cite quelques phrases des gens qu'il interviewe, comme justement les policiers, les juges, là ils disent des phrases magnifiques, quand le juge dit la justice c'est du sur-mesure, c'est jamais du prêt-à-porter, mais au fond, le livre fait 160 pages, je pense qu'il en aurait fait 260, ça aurait été mieux, parce qu'il aurait laissé quand même passer un peu de la passion et de la violence. Quoi.
Elisabeth.
Mais je rejoins assez ce que dit Philippe. Effectivement, la démarche, elle est incontestable, elle est extrêmement vertueuse et on a besoin aussi, je pense. Malgré tout, je dirais que c'est pas tant par excès de raison qu'il pêche que par excès de vertu. Surtout quand il commence à essayer de dessiner en parallèle les destins en miroir inversé de sa mère et de Saïd. Quand il parle de sa famille, avec un arrière-grand-père résistant, cette famille unie, qui voyage, à un moment, c'est tellement la sainte famille. Et puis d'un autre côté, je trouve que quand il doit décrire celle de Saïd, là, c'est l'écriture journalistique qui reprend le dessus. Il me semble qu'il n'arrive pas à saisir cette réalité-là. Il ne la décrit que par cliché, quand il parle par exemple du père de Saïd qui appartient à cette immigration besogneuse. Enfin, je trouve qu'il y a des formules comme ça qui sont un peu... qui relèvent un peu du cliché journalistique.
Sociologique
d'ailleurs, il inclut des sortes de synthèses d'études sociologiques, notamment sur le rodéo urbain. Il fait un détour par l'histoire justement du quartier des Voraces, enfin en tout cas de cet immeuble. Et je trouve qu'il y a un déséquilibre. Lui qui, à la fin justement, fait référence au fait que sa mère était professeure de yoga et recherchait l'équilibre. Je trouve que le livre, au contraire, souffre d'un déséquilibre entre sa famille à lui, qu'il décrit dans des termes extrêmement... beau et juste, et c'est peut-être effectivement une très très belle famille, mais on a l'impression qu'il analyse tout ça du haut de cette supériorité morale.
Alors que le mouvement premier du livre, c'est précisément de se mettre à la place de l'autre. C'était le geste initial. Ouais. Jean-Marc ?
Moi, je suis totalement d'accord avec cette idée de supériorité morale, avec notamment la scène qui ouvre le livre. Il est à un meeting d'Éric Zemmour et de militants, et à un moment donné, il se dit « je suis le seul dans cette assemblée qui aurait une véritable raison d'être raciste et vengeur ».
Là, il dit pas qu'il est le seul. Il dit que son passé l'autorise à être en colère.
J'aurai mon passé, voilà. Il a une sorte de surplomb, de supériorité morale qui m'a un peu gêné, mais en fait il en fait quelque chose d'intéressant ensuite dans son cheminement, c'est-à-dire que c'est un parcours de deuil et il l'aborde avec différentes étapes. Il essaye de se renseigner, il dialogue, il va à la rencontre de la famille, il veut assister au procès finalement, deuxième procès de celui qui a tué sa mère, finalement il ne le fait pas. Et donc il y a ce travail de deuil qui est assez difficile. Je pense qu'il n'arrive vraiment pas vraiment à le faire parce qu'en face de lui, il a quelqu'un qui ne mérite pas ce deuil-là, en fait. Il a en face de lui quelqu'un qui est totalement irrécupérable, qui ne comprend même pas ce qu'il a fait, le chagrin qu'il a causé, qui recommence de toute façon à être un délinquant. Et donc, il ne peut pas y avoir la moindre amorce de dialogue pour faire ce deuil. Pour moi, c'est vraiment un texte qui aurait mérité de rester dans le cadre d'un témoignage journalistique, probablement d'une dizaine de pages. Et je pense que là, ça aurait beaucoup plus de
rigueur. Parce qu'il peut avoir une vraie langue, hein, par moment. Je trouve qu'il y a des formules assez belles, assez déroutantes, avec des termes même un peu désuets. Enfin, j'étais même plutôt surprise. La scène d'ouverture du meeting, il ne nomme pas le candidat, mais on reconnaît Zemmour. Je trouve qu'il lui donne une ampleur romanesque qui n'est pas inintéressante. Et j'étais plutôt agréablement surprise dans les premières pages. Et c'est après, je trouve que ça se perd un peu.
Patricia ?
Moi, je voudrais vous y voir, parce que vous dites il aurait dû, il aurait mieux fait, etc. Je trouve que c'est extrêmement compliqué d'écrire sur un sujet comme ça en évitant l'explication par le déterminisme social. Or, il fait appel d'ailleurs à un moment donné, il cite Foucault, qui dit « le fait divers est une sécrétion du temps ». Et ça, il l'effleure, il le contourne, mais il ne l'évite quand même pas. Mais il renonce en tout cas à l'image justement de la statue du commandeur qui serait là à demander à Saïd de se mettre à genoux devant lui. Et je trouve ça extrêmement compliqué. C'est quand même une descente aux enfers qu'il a vécue. Il est parvenu à mettre son chagrin, son désarroi, sa colère à distance, pas de côté, mais presque à un moment donné où on se dit mais le jeu dans son livre est un autre. C'est pas un livre sur sa mère, et pourtant donc la plongée dans le traumatisme elle y est. C'est pas non plus un livre pour pardonner, c'est un livre pour expliquer. Et expliquer, eh ben c'est pour ça que je vous ai dit, je voudrais vous y voir. C'est extrêmement difficile.
Non, mais on a tous reconnu cette qualité-là du livre.
Et je trouve que ce livre a des qualités, a ces qualités-là.
Mais... La collision de Paul Gasnier est publiée chez Gallimard. On termine avec vos coups de cœur, sachant que je ne pourrais pas vous présenter le mien aujourd'hui, non pas par manque d'enthousiasme, mais parce qu'une bonne grippe m'a tenue éloignée de toute lecture et de bien d'autres choses pendant plusieurs jours, donc je me rattraperai une prochaine fois. Mais c'est à vous pour des recommandations qui élargissent le programme du masque. Jean-Marc.
Mon livre s'appelle « L'histoire de la littérature », c'est chez Do et c'est écrit par Xavier Chapuis. C'est un roman assez iconoclaste qui commence de manière assez basique. C'est un employé de bureau qui veut séduire sa collègue qui s'appelle Bérénice, on voit la référence, et qui veut devenir un grand écrivain. Sauf que pour devenir un écrivain, au lieu d'écrire, il n'est pas derrière un clavier, il est plutôt derrière un revolver ou un poignard. Il décide de flinguer des auteurs, une sorte de ton flingueur, la Lagarde des Michards, mais il les tue vraiment.
Ça t'a plu, ça ?
Ben, c'est assez drôle.
Avec la Lagarde des Michards, carrément.
On n'a pas tous les jours l'occasion de rire. Voilà. Alors, il tue Modiano, il tue Welbeck, Fonquinos, et à chaque fois, il est persuadé d'ajouter un grand chapitre à son livre. Je ne vous dirai pas si ça finit à la prison de la santé ou au Goncourt. Je constate qu'il tue Solers, et que Solers a donc ce privilège insigne d'être tué deux fois dans un roman, puisqu'il avait déjà été tué dans la 7e fonction du langage de Laurent Binet.
Histoire de la littérature de Xavier Chapuis, c'est paru chez Do. Elisabeth.
Alors moi, c'est Vertu et Rosalinde d'Anne Serre au Mercure de France. Alors c'est une série d'historiettes vraiment délicates comme des miniatures et qui forment toutes ensemble l'autoportrait en fragments d'une écrivaine à différents âges de sa vie. Alors il s'y mêle des rêveries qui sont vraiment belles comme des tableaux. On pense à Matisse, on pense à Courbet. Il y a également des souvenirs d'enfance qui, eux, ressemblent davantage à un film d'Hitchcock. Des pensées plus ou moins avouables aussi, comme le fait que l'écrivaine en question, ben, elle aussi, elle rêve parfois de tuer une de ses consoeurs qui a un peu plus de succès qu'elle et qui s'appelle Iphigénie Landisque. Et puis, elle parle aussi de ses séances d'écriture en compagnie de son amie prénommée Vertu. On croise aussi Joyce Carol Oates, un ancien amant, un fils matricide ou encore Hamlet. Bref, c'est très, très riche, un peu décadent. Et Anne Serre, en fait, ce qui fait vraiment le sel et le charme de ses livres, c'est son écriture. Alors là, c'est vraiment une des très, très grandes stylistes. C'est une écriture ciselée, diamantine, ironique, et ça fait merveille à chaque phrase. C'est un pur délice.
Vertu et Rosalinde d'Anne Serre au Mercure de France. Patricia.
Pour une érotique du sensible, c'est d'Aurore Vincenti, c'est à la Découverte. Alors c'est une fille qui est linguiste, d'ailleurs elle avait fait des chroniques à un moment donné autour des mots sur France Inter, elle est agrégée d'anglais, c'est une chercheuse en sexologie clinique. Et son livre est tout à fait original et singulier parce qu'il nous invite à aborder la sexualité autrement que comme on l'aborde souvent de nos jours, par des normes, des injonctions, un désir en panne ou des corps en miettes parce que violentés. Et alors pour ce faire, elle convoque aussi bien la philosophie que l'histoire des langues, la lexicologie, le tout soutenu par sa propre expérience et une forme de pédagogie somatique. Et c'est un livre très joyeux, au moins autant, et là je reprends ses propos, au moins autant que de danser, de réfléchir ou de construire une bibliothèque. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Pour une érotique du sensible, quand tu m'as envoyé ton mail, tu avais écrit pour une évolution du sensible, tu m'avais mis sur une mauvaise piste. Pour une érotique du sensible d'Aurore Vincenti.
J'en parlerai à Arnaud Vivian.
À la Découverte, oui. Philippe.
Et moi, c'est un livre dont le titre, c'est un livre, justement. Et c'est sous-titré « Un livre dans la vie de Primo Levi ». C'est le livre de Fabrice Guéniaud. C'est un livre tout petit, par sa taille. Il est publié chez Arléa. Il fait 80 pages. Il est formidable parce que, en fait, Fabrice Guéniaud veut raconter son amour de la littérature. Mais pour ça, il revient sur quelques lignes de Primo Levi dans Le Système périodique, dans laquelle il racontait que, mourant dans l'infirmerie d'Auschwitz, alors que les Russes sont, on entend déjà les Russes qui arrivent, ils sont persuadés que les SS vont les assassiner, lui il est en train de mourir de la scarlatine, il est pris de fièvre, et quelqu'un lui lance un livre, ça aurait pu être n'importe quel livre, ce livre, c'est Remorque de Roger Vercel, et il le lit. Et dans ses mémoires, Primo Levi dit que peut-être, on ne sait pas, ce livre lui aurait sauvé la vie. Et le livre de Fabrice Guéniaud, c'est là-dessus. Mais il se trouve que le livre de Fabrice Guéniaud se termine par une chose que je ne révélerai pas, mais qui est une telle force, qu'en fait, je dis ce livre qui a la taille d'un canot de sauvetage, ça déclenche d'un seul coup un ouragan.
Un livre de Fabrice Guéniaud, publié chez Arléa.
Magnifique.
Philippe Trétiac, Elisabeth Philippe, Patricia Martin, Jean-Marc Proust, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Le prochain enregistrement aura lieu dans 4 jours, jeudi 30 octobre donc, et le suivant se déroulera depuis la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, le samedi 8 novembre. Anaïs Reynard et Guillaume Giraud ont réalisé cet épisode du Masque et la Plume avec Philippe Thibault, Tahar Bouklifa et Mathieu Leroux aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation de l'émission et à Zora Dégoutte pour son aide précieuse. Ma bande et moi, vous retrouvons la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.